95.2. Nous avons reçu mardi soir dernier le grand reporter Marie-Thérèse Debrosse, grand reporter à Paris Match, auteur d'un livre sur les enlèvements extraterrestres. Ça s'appelle Enquête sur les enlèvements extraterrestres, paru chez Plomb en 92 et republié plus récemment en 95 aux éditions J'ai lu. La première partie de cette émission a été diffusée vendredi, la deuxième samedi. Voici la troisième et dernière partie où Marie-Thérèse Debrosse dialogue avec les auditeurs.
Pour en revenir au dossier des aliens guérisseurs, il y a effectivement alors de nombreux cas de guérison, de nombreux cas de fausses guérisons, c'est-à-dire les aliens annoncent qu'ils vont guérir et puis ils guérissent rien du tout. De nombreux cas de remèdes miracles donnés par les extraterrestres qui doivent guérir le cancer et qui s'avèrent être de la poudre de perlimpinpin. Tout ce dossier est excessivement mélangé. Mais quant à dire, est-ce qu'ils ont maîtrisé l'immortalité ? J'espère bien que non. Parce que l'immortalité, il n'y a pas pire que l'immortalité. Je ne voudrais pas vous rappeler. Si, je veux vous rappeler la grande légende grecque. D'Anchise, ce beau pâtre grec qui était tombé amoureux d'une fille de Jupiter. Et la fille de Jupiter, la princesse Aurore, va voir son père et lui dit « Papa, mais c'est épouvantable, il est beau, c'est un mortel, il va mourir, fait quelque chose. » Et elle ennuie tellement Jupiter que Jupiter lui dit « Très bien, je le rends immortel. » Seulement, la princesse Aurore avait demandé l'immortalité, mais elle n'avait pas demandé l'éternelle jeunesse. Elle, fille de Jupiter, elle continuait à être belle, fraîche et jeune, et Anchise, splendide berger, commençait à vieillir, à se ratatiner, il vieillissait tellement qu'à la fin, la princesse Aurore a dû le coucher dans un berceau, tellement il était devenu petit, ratatiné et vieux, et par pitié, Jupiter l'a transformé en grillon. Après. Mais pour vous dire que l'immortalité, à mon avis, c'est la pire des choses.
On va recevoir tout de suite Françoise, qui patiente depuis un petit moment, de même que Michael, juste après. Bonsoir Françoise.
Oui, bonsoir. Je suis très contente de vous entendre, parce qu'il se trouve que tout à l'heure, avec des amis, on parlait de ce sujet.
Le volume de votre radio, Françoise.
Oui, alors je m'éloigne. Donc, on parlait de ce sujet, et en rentrant, par hasard, on va dire... branché sur 95.2.
Il n'y a jamais de hasard.
Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme qui n'est pas vraiment chamane, parce que le mot la dérange, mais elle est guérisseuse. Et elle m'a enlevé des implants que j'avais. Peu de temps après, quelques nuits après, j'ai eu l'impression, enfin que ce n'était pas un rêve, que je voyais arriver vers moi un vaisseau métallique avec des créatures métalliques ressemblant à de grands insectes, et ces insectes, enfin ces créatures, sont venus vers moi très violemment, à tel point que j'ai pas pu réagir par quoi que ce soit, et m'ont plombé, on va dire, en me barricadant toute la partie du cœur, toute la cage thoracique et le cœur.
Attendez, qu'est-ce que vous appelez plombé ?
Des faisceaux, avec quatre faisceaux rouges. Donc j'en ai parlé à cette femme quelques jours après, parce que je ne me sentais pas très bien avec ça. Donc elle m'a à nouveau enlevé cet implant. Et peu de temps après, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si c'est un rêve ou pas un rêve, que sur la partie de mon front, il y avait une grille rectangulaire, enfin on mettait une grille rectangulaire avec une succession de petits rectangles ou carrés, comme des puces on va dire, de couleur jaune et rouge, très très fluo. Et de temps en temps, ça m'arrive de faire des voyages dans des longs tunnels qui n'en finissent pas, mais à une vitesse qui n'est pas une vitesse humaine. Voilà.
C'est pas rien.
Je ne sais pas ce que ça représente.
C'est pas rien, votre témoignage. Vous avez
peu, mais je ne me sens pas trop mal avec ça, sauf dans le premier cas, où je sentais bien que c'était quelque chose qui touchait la zone du cœur.
C'est curieux parce que dans le dossier des abductions, c'est une des choses qui, nous autres chercheurs, nous perturbe beaucoup. C'est que jamais on a eu un seul cas où on s'intéresse au cœur. Quand il y a des examens fait par les aliens. Ils s'intéressent beaucoup au système de la reproduction, ils s'intéressent aux articulations, ils font jouer les articulations parce qu'ils les tordent dans tous les sens, ils regardent les dents, les yeux, le nez, les oreilles. Jamais le cœur, ce qui est curieux parce que pour nous c'est l'organe numéro un. Ils s'intéressent aux poumons, ils s'intéressent aux reins, à la vessie. Le cœur, vous êtes la première fois où j'entends parler d'un cas avec le cœur. Vous avez commencé votre témoignage, madame, en vous disant qu'une guérisseuse... Vous avez retiré des implants.
Oui.
Bon.
Enfin, je l'appelle comme ça, mais je ne sais pas si elle se nommerait comme ça. Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard, il n'y a pas longtemps, et j'ai eu envie de la rencontrer très très vite. La connexion s'est faite, et puis elle a fait ce soin, où elle m'a dit, mais tu as eu des implants partout, à la tête, au cœur, et toute la zone de création.
Là, Françoise, je vais juste intervenir brièvement, il faut s'entendre sur le mot implant, oui. Parce qu'on aurait tendance, dans le langage courant, à penser au silicone.
Non, alors dans le
langage ufologique, implant a un autre sens.
Alors justement, ces implants, puisqu'elle vous les a retirés, est-ce que vous les avez conservés ?
Ben non, du fait qu'elle les a retirés, je ne les ai pas conservés, parce que c'était des implants très négatifs pour moi. Très négatifs dans le sens que c'était... ça m'empêchait d'être connectée à l'amour, on va dire, au sens très large.
Est-ce qu'elle les a conservés ?
Comment ?
Est-ce qu'elle les a conservés, ces implants ?
Je n'ai pas compris votre question.
Est-ce que votre guérisseuse a conservé ces implants ?
Non, je pense qu'elle les a détruits, dissous, je ne sais pas comment.
Elle ne s'est pas contentée de les neutraliser, elle les a fait disparaître.
Peut-être qu'elle les a simplement neutralisés, mais je pense que peut-être plus, je ne sais pas. Je suis assez émue de parler de ça, parce que c'est vraiment une expérience... très très curieuse, et justement quand peu de nuits après j'ai rêvé de ces êtres métalliques qui revenaient me plomber à nouveau toute cette zone du cœur au sens affectif, je me suis sentie très très mal, j'ai senti que
c'était
pas normal.
Oui oui, bon, mais attendez, je suis obligée de revenir à l'intervention de votre guérisseuse quand elle a retiré ses implants. Est-ce que vous avez vu quelque chose ou est-ce que vous n'avez rien vu? Est-ce qu'elle vous a dit « je te retire » ou « je vous retire des implants qui vous empêchent de vivre normalement » ou est-ce que vous l'avez vu retirer de votre corps des petits objets?
Non, je n'ai pas vu, mais je me suis sentie complètement différente, comme libérée.
Bon, c'était donc plutôt une symbolique, ces implants, que quelque chose de physique, alors.
À moins que sa guérisseuse soit philippine.
Oui, évidemment.
J'ai pas compris ce que vous disiez.
C'était le private joke entre MTB et moi. Mais on peut s'expliquer. Les guérisseurs philippins, les fameux guérisseurs philippins des années 75-80, étaient d'habiles manipulateurs qui retiraient toutes sortes de corps étrangers du corps de leurs patients.
Y compris du foot du gant. Mais là, il s'est peut-être passé quelque chose. Je regrette, je n'étais pas là. Je regrette... toute façon est intéressant, mais pour ce que vous m'en dites, je ne peux pas me situer, parce que il est très possible, pas les guérisseurs, mais enfin les magiciens ou les désenvoûteurs, etc., sont capables d'annihiler des principes négatifs qui ont été mis dans quelqu'un, mais qui ne sont pas des choses physiques. Vous pouvez porter la poisse à quelqu'un, c'est pas en vous envoyant une petite aiguille physique dans le corps. Bon, puis surtout si vous croyez que quelqu'un vous porte la poisse, vous allez l'avoir la poisse. Et puis vous allez avoir un désenvoûteur qui va vous dire « je te retire ce qui t'empêche d'être heureuse », etc. Mais là, rien ne se passe au niveau physique. Dans le dossier des enlèvements, il semble qu'il y ait une certaine matérialité à ces emprunts, à ces implants. Je cite par exemple dans mon livre le cas d'une abductée canadienne, chez qui d'ailleurs j'ai vécu assez longtemps, et j'ai séjourné plus exactement assez longtemps, et qui avait, dans la maison, était un festival de poltergeist des plus déplaisants. Et un jour, lui est sorti du nez, elle ne le savait absolument pas. Ah, lui est sorti du nez une espèce de chose bizarre qui a été examinée, qui ne ressemblait à rien de connu et qui a été
examiner, si je ne donne pas son nom, mais simplement un pseudonyme, je donne le nom du professeur d'oncologie de l'université de McGill qui a bien voulu regarder cet entre guillemets implant, qui est le professeur Grad, donc qui a tout à fait accepté que j'utilise son nom. Là, c'était quelque chose de physique qui ne correspondait à rien de connu. Il y a quelques radiographies rares, mais elles existent, de substances très bizarres dans le cerveau de certains abductés. Je connais un cas, Karel, d'une fille qui aurait été enlevée, enfin je pense qu'elle a été enlevée alors qu'elle faisait du ski. On l'a retrouvée nue dans la neige. Ses vêtements étaient bien pliés, en carré parfait, à une trentaine de mètres d'elle. Ses skis étaient sur ses vêtements. Il n'y avait aucune empreinte, lorsque les sauveteurs sont arrivés d'ailleurs, on l'a retrouvée. Il n'y avait aucune empreinte, ni de ski, ni de pied dans la neige. Son père, qui était chirurgien, est arrivé immédiatement. Carrie avait un trou derrière l'oreille, un trou assez important. J'aurais pu y rentrer l'extrémité de mon petit doigt, donc c'est pas rien. Et je peux vous dire que vous n'avez pas un trou pareil, sans savoir qu'on vous a fait un trou pareil. On a examiné son cerveau et on a vu qu'elle avait une substance dans le cerveau que le père, qui était chirurgien du cerveau, a refusé d'enlever parce que c'était un point trop dangereux et ça aurait joué sur l'équilibre mental de sa fille. Elle peut vivre avec. Bon, il y a donc quelques cas, peu, je m'empresse de le dire, bien documentés, de substances étrangères qui apparaissent quasi magiquement, d'ailleurs avec une grande similitude des expériences chamaniques où l'apprenti chaman reçoit des corps étrangers dans le corps, qui sont d'ailleurs le symbole des pouvoirs qu'il va acquérir dans l'invisible. Il y a également toutes sortes de joyeux farfelus qui se baladent, c'est à mourir de rire d'ailleurs, avec des boîtes dans lesquelles vous avez je ne sais combien d'implants, vraiment, une collection d'implants, un implant à 5 dollars, l'implant à 100 dollars, enfin je ris parce qu'ils ne sont pas à vendre, mais bon. Mais enfin, il y a quand même une petite chose physique, c'est pour ça que j'aurais voulu savoir si les implants de cette Françoise, je crois, de Françoise, auraient pu avoir une certaine matérialité ou si on était complètement dans l'invisible.
Bien, Françoise n'est plus là, mais Michael est avec nous. Michael, bonsoir.
Bonsoir. Moi, je ne sais pas si je vais rentrer dans le thème de la soirée, parce que ça traite pas, enfin, mon témoignage ne traite pas d'ufologie ou d'enlèvement, ça traite plutôt de lumière. En fait, je me suis aperçu il y a quelques années que quand je pensais aux gens, je voyais une silhouette et une lumière, en fait. Et je reconnaissais tout à fait les gens sans voir leur visage ou juste par leur lumière. Parce que les lumières sont à chaque fois différentes dans chaque personne. Donc je suis athée, je crois en rien. Je n'ai jamais eu de lecture sur ce sujet, donc je ne sais pas du tout ce que c'est.
C'est-à-dire quand vous dites que vous voyez une lumière, c'est ce que d'autres personnes appellent, vous voyez l'aura.
On m'a dit ça, on m'a dit que c'était une aura, on m'a dit que c'était l'aura. Je sais pas si ça explique.
Mais Michael nous dit qu'il lui suffit de penser à quelqu'un pour voir l'aura de la personne, en somme. Pas être en présence de la personne, c'est ça?
Mais en fait, c'était au début ça. Mais après, je me suis penché là-dessus parce que j'ai toujours vécu avec ça et je jugerais les gens avec ça, en fait. J'ai peur de certaines personnes parce que leur lumière m'indique qu'il faut en avoir peur ou j'aime. À chaque fois que je tombe amoureux, je vois toujours une très belle lumière dans la personne, en fait. Et c'est souvent cette lumière-là qui me fait tomber amoureux, quoi.
Ah oui, c'est tout à fait compréhensible, d'ailleurs, ça.
En fait, il y a une évolution là-dedans, parce que je me suis penché là-dessus, et parce que je me suis dit, c'est pas possible, ça, on va pas... Faut pas que je laisse ça comme ça, faut pas que je vive avec ça sans essayer d'étudier ça de plus près. Et au fur et à mesure où je me suis penché dessus, j'ai vu les lumières dans les gens quand ils étaient face à moi, en fait. Et au fur et à mesure, après, j'ai vu les lumières dans des gens dans le bus, dans une vieille femme complètement vilaine et presque débile, ça se voyait, et elle avait une superbe lumière, et petit à petit, comme ça, j'ai vu dans plusieurs personnes, et un jour, je suis rentré dans le métro, et j'ai trouvé un strapontin, je me suis assis, et j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu la lumière de tous les gens dans le wagon, et j'ai eu ni chaud ni froid, mais comme si j'avais chaud, mais que c'était bien, pas trop chaud et ni trop froid. Enfin, j'étais très très bien et je suis ressorti du métro avec cette impression de bien-être et d'être en paix avec le monde et d'aimer les gens. Et j'ai plus jamais vu de lumière, mais par contre, je vois toujours, j'arrive toujours à sentir ce qu'exprime la lumière, mais je vois plus ces lumières qui rentrent en elles-mêmes ou ces lumières expansives ou ces lumières en bâton, ces lumières en pic, ces lumières en comme une nuée lumineuse. Enfin,
est-ce que vous avez compris à partir de quel moment vous n'avez plus vu ces lumières ?
Dès que je suis sorti du wagon du métro. En fait.
Oui, mais dans la vie en général, vous dites quand je vois quelqu'un, je vois la lumière, et c'est pour ça que je suis. Quand je vois une belle lumière dorée, je sais que je peux tomber amoureux. Enfin, je déforme peut-être un peu, mais c'était l'esprit de ce que vous disiez. Vous ne voyez plus maintenant les lumières autour des êtres ?
Non, je ne les vois plus, et depuis cet épisode du métro, je ne les vois plus du tout, et... En fait, j'ai l'impression que mon cerveau m'a dit « aime les gens ».
Et why not ? Et j'espère que vous le pratiquez, le message, alors.
Ah ouais, je le pratique, au mieux. Je fais de mon mieux, quoi, pour aimer les gens, mais bon, ça c'est autre chose, quoi. Mais c'est, ouais, cette lumière, en fait. Je sais pas si vous avez eu des témoignages ou si vous avez une connaissance là-dessus qui pourrait m'aider à comprendre, peut-être, ou je sais pas, s'il y a une vieille tradition.
De toute façon, la possibilité de voir ce qu'on appelle les auras, c'est une très, 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 très vieille tradition, et c'est une très ancienne possibilité qu'ont les êtres. Je crois que nos ancêtres l'avaient plus que maintenant, parce que nous, notre éducation nous a fait perdre toutes sortes de domaines, toutes sortes de possibilités, toutes sortes de pouvoirs. Mais moi qui vis, par exemple, qui vivais beaucoup en Afrique, dans les Caraïbes, dans l'Amérique centrale, etc., je vois souvent les enfants, quand ils dessinent, rajouter ces espèces d'auras autour des êtres, et quand je leur pose des questions, ils m'expliquent toujours que cette lumière accompagne les personnes et que celle-là est gentille. Il me montre une couleur bleue, par exemple. Celle-là n'est pas gentille quand elle est cerclée de vert. La tradition des auréoles autour des seins n'est que la transcription picturale de cette possibilité. On imagine les seins auréolés d'or ou de blanc, parce que c'est la couleur la plus pure. Et c'est comme ça qu'on représente justement cette lumière qui émane des êtres et que les yeux des aveugles que nous sommes en général ne perçoivent pas, mais que certains médiums perçoivent, hein, ça j'en suis sûre. Et je dirais même, on peut s'entraîner à développer cette possibilité. Ça prend un petit peu de temps. Il faut avoir le courage de se planter soi-même devant son miroir, de se regarder. Non, j'ai peut-être pas à dire ces choses à l'antenne. Mais enfin, il y a une possibilité de s'entraîner à ça.
Oui, parce que le phénomène du miroir est assez dangereux. Certains peuvent y rester. C'était préconisé par Gurdjieff et pratiqué de manière malhabile.
Oui, non, c'est pour ça que j'aime mieux glisser. J'aime mieux glisser. Mais enfin, il y a une vraie possibilité, je vous assure qu'on l'a. Après, ça se donne des...
Mais en fait, moi, je vois plus les lumières. Mais par contre, mes amis me font rencontrer des gens qu'ils rencontrent pour me demander, parce que je sais pas comment je fais, mais je vois, en fait, je vois les gens, je sais si telle personne peut avoir tel problème. Je sais, par exemple, je rencontre une fille, je sais que son père a un rapport spécial avec elle, et je lui explique à chaque fois, et je me trompe jamais, en fait, et c'est ça qui est presque énervant. Je me trompe jamais, quoi. Et pourtant, je vois plus ces lumières là mais je ressens.
Ben, ça veut dire que vous avez élargi les portes de votre perception. Ben, vous vous tromperez certainement un jour encore, hein, sinon...
Je ne me trompe jamais. En fait, je me suis trompé avant, mais j'ai beaucoup développé ça chez moi, cette perception, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour ça que quand je me suis réellement aperçu de ces silhouettes noires que je vois dès que je ferme les yeux, que je pense à des gens avec leur lumière, Oui, là, je me suis encore plus penché là-dessus. Et c'est vrai que depuis toujours, je vois dans, j'arrive à voir la. Enfin, on dit l'habit ne fait pas le moine et tout ça, mais enfin, moi, j'arrive directement à voir qui est qui, quoi. En fait, quand je rencontre les gens, je sais qui ils sont.
Eh ben, bravo, Michael, hein, et merci de votre témoignage.
Ok, bon, je vous remercie alors.
Merci, Michael. En attendant les appels suivants, on nous demande quel est le mtb.net pour vous joindre.
Mon adresse internet.
En quelque sorte, votre adresse email. Eh oui.
Eh oui. On ne peut pas me les envoyer ici parce que j'ai déjà une boîte aux lettres qui déborde tellement. Bon, je vais la donner.
Il faudrait qu'on fasse suivre.
Oui, tu peux pas.
Ça reviendra exactement au même. La boîte aux lettres débordera autant si je fais suivre celle que. Les messages que je reçois.
Oui, bon, alors, je donne ma boîte aux lettres.
Oui, mais plus tard.
Donne ma boîte aux lettres. Alors, c'est Vladia, Vladzia, @nous.fr.
Trop tard, c'est donné. Trop tard pour le regretter. Est-ce qu'il y a un autre moyen, téléphonique, par exemple, un téléphone de bureau, un répondeur, un secrétariat? Un éditeur, est-ce qu'on peut envoyer du courrier à un éditeur, par exemple?
Ah oui, mes clercs chez Plon. Ou bien, attendez, ils peuvent je peux donner un téléphone de bureau. Oh, moi, je ne l'ai pas.
Allez, dans un instant.
Dans un instant.
Une question de Enel. Marie-Thérèse de Brosse pense-t-elle qu'il arrive que des aliens se mêlent à nous et vivent notre vie quotidienne?
Alors, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord répondre à la première. Qu'est-ce que vous appelez un alien?
Voilà, bon courage, Enel.
Marie-Thérèse de Brosse est avec nous ce soir et vous pouvez la joindre pour lui poser vos questions au 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 deux fois. Alors avant d'accueillir Alain, Marie-Thérèse, un auditeur nous a appelé, ce qui me paraît assez logique finalement, hors antenne, pour nous demander, lui étant aveugle, si vos livres allaient être traduits en braille ou tout simplement mis en cassette audio.
Non, je dirais c'est une triste boutade qui va sortir en Chine, mon bouquin, mais en braille, non, faut peut-être que je demande, je ne sais pas du tout. Ça, c'est les éditeurs qui s'occupent de ça. C'est une bonne question, ça. Je vais regarder, hein.
Peut-être, Marie-Thérèse de Brosse, peut-être n'êtes-vous pas opposé à ce que l'association Valentin Oui le mette sur bande magnétique.
Ah non, pas du tout.
Alors peut-être une version audio.
Pas du tout, et sans problème, et gratos pour les aveugles, ça va absolument.
Hein. Du bouquin, enquête sur les enlèvements extraterrestres. Actuellement en poche, donc édition J'ai lu. Nous accueillons Alain.
Oui, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonjour plutôt à cette heure-là. Oui, j'ai ressenti tout à l'heure quelques frissons quand on a parlé de l'intervention des aliens, des enlèvements, etc., etc. Bon, tout ça, ça me fait un petit peu peur. Bon, j'interviens. J'avais écouté l'autre jour l'émission sur les extraterrestres, d'ailleurs une émission qui m'avait fort intéressé, fort passionné. Voilà, bon, je suis agnostique, mais enfin j'ai une recherche spirituelle.
Et vous êtes prof d'histoire.
Allô ?
Et vous êtes prof d'histoire.
Il m'a reconnu. Bon, oui... je ne sais pas quel lien établir entre ces phénomènes et des phénomènes que l'Église catholique, à tort ou à raison, qualifie de diaboliques. Est-ce que ces êtres, en supposant leur existence réelle, sont-ils néfastes? Je veux dire, ont-ils une intention négative ou positive vis-à-vis de notre pauvre humanité?
Ah, alors.
Ou neutre, ou cherchent-ils seulement à nous connaître, à savoir comment nous fonctionnons physiologiquement ou psychologiquement?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Bon. Premièrement, et vous, alors, le prof d'histoire, ça vous intéressera.
Oui.
L'histoire de l'humanité, mais nous remontons aux carrières, aux peintures rupestres de Lascaux, on peut vous remonter à, et ceci dans l'équivalent dans toutes les traditions, l'histoire de l'humanité est riche de tentatives de contact avec l'invisible. L'invisible qui sera perçu, selon les cas, comme bénéfique ou maléfique. C'est pourquoi, si on le croit maléfique, il faudra l'apprivoiser. D'où les rituels sanglants pour apaiser les dieux courroucés, qui vont même jusqu'à des sacrifices de personnes. Les offrandes. Les offrandes un peu plus matérielles, comme si les entités invisibles étaient matérielles, avaient besoin de se nourrir. Vous voyez dans la Bible des témoignages extraordinaires. Quand vous voyez l'entrée des Hébreux à Jéricho, les massacres extraordinaires qui ont été faits au nom de Yahvé. Yahvé demandant qu'on tue tous les hommes. Les femmes.
C'est Abraham qui, d'après la Bible, bien entendu, met fin au sacrifice humain.
Oui, mais
symboliquement.
Oui, mais attendez, le Dieu des Juifs demandait qu'on lui sacrifie, ça c'est l'entrée à Jéricho qui était absolument épouvantable, tous les gens qu'il avait offensés, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants et les animaux, mais demandait qu'on lui garde l'or. Bon, alors tout ça, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'un Dieu invisible a besoin d'or ? Bon, autre chose, ce qu'on appelle les aliens et leurs descriptions ne nous sont connues que par les témoignages. Il faut savoir comment on prend les témoignages et quelles sont les possibilités qu'a notre cerveau de décoder ce qui apparaît. Je vais vous prendre un exemple très précis. Moi, j'ai travaillé sur une apparition de la Vierge qui m'intéressait beaucoup au Venezuela. Vous savez qu'on appelle traditionnellement les gens qui voient la Vierge, on les appelle les voyants.
Bon. Oui, ils sont seuls à voir.
Ils sont seuls à voir, mais bien sûr. Moi, j'étais aux expériences de Medjugorje. Bon, très bien. Alors, revenons à cette histoire de voyants du Venezuela. Il y avait 7 enfants qui témoignaient avoir vu la Vierge arriver, etc. L'enquête était très bien faite. Le milieu socioculturel à qui appartient un témoin est toujours extrêmement intéressant parce que ça nous donne des filtres différents pour nos perceptions.
Oui, comme à Fatima,
exactement.
Trois petits bergers pauvres.
Alors, dans le cas de cette apparition au Venezuela, les interrogatoires séparés des enfants disaient que 3 avaient vu la Vierge, 2 avaient vu un ange et 2 avaient vu un extraterrestre.
Très bon.
Quand on a fouillé davantage, on s'aperçoit que les 3 premiers étaient d'une bonne famille chrétienne, vous savez, catholique, vraiment le catholicisme d'Amérique du Sud que je ne vous décris pas. Les 2 qui avaient vu des anges appartenaient à des familles où l'empreinte de la religion était moins forte. Par contre, les anciens cultes étaient encore un peu vivaces. Et quant à ceux qui avaient vu des extraterrestres, ils appartenaient à des familles communistes. Or, il est bien évident que dans le cerveau d'un enfant élevé dans la religion catholique, il est normal de voir arriver la Sainte Vierge, ou à la rigueur un ange. Un enfant qui est élevé dès l'enfance, savoir que tout ça c'est de la sottise et superstition, risque pas de voir arriver la Vierge. Mais quand il est confronté un phénomène d'apparition quelconque, son cerveau va décoder l'apparition d'une façon qui soit acceptable par le cerveau. Nous sommes en pleine mythologie extraterrestre. Maintenant, les aliens sont absolument partout, dans la publicité, etc. Donc, ils voient un extraterrestre. Et nous avons le même stimulus qui vient frapper les 7 cerveaux, et le même stimuli est décodé différemment selon 3 profils différents.
D'accord, je suis. D'ailleurs, Jung, qui est mort en 60, 61, déjà, peu de temps avant de mourir, avait écrit des choses là-dessus en disant « Maintenant, les gens voient des extraterrestres alors qu'autrefois, ils voyaient apparaître des saints, des anges. »
Oui, mais Jung précisait, parce que là, malheureusement, les gens citent toujours un mythe moderne sans l'avoir lu. C'est-à-dire, on connaît 4 pages du mythe moderne, les gens parlent de Jung sans le connaître. Et Jung précisait bien, seulement on n'a jamais vu des apparitions imprimées, impressionner les radars ou les pellicules de photos.
Sauf, au Mexique, là, il y a un manteau qui a été, qui a reçu des empreintes.
Le manteau de la Guadeloupe.
Ouais, la Vierge de Guadeloupe.
C'est ça. J'y suis allée 5 fois, c'était un pèlerinage extraordinaire. Oui.
Et il y a d'authentiques traces, je veux dire, c'est pas une supercherie, on voit quelque chose.
C'est pas une supercherie, quoi qu'il y a un nouveau débat maintenant sur sur d'éventuels pigments. Mais enfin, le cas de la Guadeloupe est absolument passionnant. Moi, j'ai eu la chance d'aller au pèlerinage de la Guadeloupe. Une époque où le sida n'existait pas, et c'est très important parce que les Mexicains faisaient les derniers kilomètres sur les genoux.
Oui,
donc ils rentraient dans l'église dans un fleuve de sang. Et depuis la propagation du sida, évidemment, il est interdit de faire ça, parce qu'évidemment, ce serait un vecteur de transmission du virus épouvantable, donc l'entrée se fait en marchant.
Et vous l'avez vu, il est exposé, ils en font une ostentation.
Oui, absolument.
En permanence.
Oui, en permanence. Et ce qui est très curieux, parce que pendant les bombardements, l'église a été très attaquée et la Guadeloupe n'a rien pris. Il y a des traces de balles tout à côté.
C'est possible. Donc ça ne serait pas un faux. D'ailleurs, je crois que le pape a reconnu comme...
Ah, le pape a une grande dévotion pour la Guadeloupe, et il a demandé la béatification, il n'y a pas encore la canonisation, de l'Indien,
voyant.
Oui, absolument.
Voyant et témoin, on est dans l'étrange, là. Est-ce que je peux en venir à ma question de tout à l'heure? Parce qu'en règle générale... L'Église, à tort ou à raison, condamne tous ces phénomènes comme étant d'origine diabolique. Voir le curé d'Ars, qui a été suffisamment... Il y a des témoignages, je pense, sérieux, je veux dire. Ce ne sont pas à ce niveau-là, ce ne sont pas des élucubrations. Il y a eu des enquêtes menées, etc.
L'Église condamne si peu ce genre de phénomène, qu'elle nomme et qu'elle continue à nommer des exorcistes, mais l'Église est très embarrassée. Parce que l'Église se veut, ou se voudrait de plus en plus scientifique. D'ailleurs, il y a l'université de Latran, il faut dire, une des meilleures universités au monde. Et on ne sait pas, par exemple, les astronomes de l'université de Latran sont parmi les plus performants au monde. Ça, on ignore le côté quand même scientifique de l'Église, mais il est de fait que l'Église tend à se démarquer de plus en plus du miraculeux et du merveilleux. Pour se faire une respectabilité conforme à
l'époque. Oui, elle devient cartésienne sur ses vieux jours.
Ah oui, elle essaye, absolument. Oui.
D'ailleurs, beaucoup de prêtres sont maintenant rationalistes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 83 ou 80, enfin, quelque chose comme ça. Il y a un exorciste normalement qui est nommé par diocèse. Et sur les 90, il y a à peine 5 à 10% qui croient réellement en leur mission. Les autres...
Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas ça, monsieur.
Les autres vous envoient chez le psychiatre.
Ils collaborent maintenant avec les psychiatres, ce qui est quand même une approche beaucoup plus intelligente, parce qu'on connaît quand même les phénomènes psychiatriques. Ils collaborent de plus en plus avec les psychiatres, mais moi j'ai vu un psychiatre amener quand même un patient en camisole de force avec 4 infirmiers, chez un exorciste que j'étais en train d'interviewer, d'ailleurs.
Ça me rappelle la cassette du Père Mathieu, où le Père Mathieu raconte ses exorcismes.
Ah oui.
Alors, je ne sais pas si là aussi, parce que j'ai toujours mon côté cartésien, évidemment, qui intervient, je me demande si là, on a affaire à une supercherie, ou si ce Père Mathieu est quelqu'un de sérieux, et d'authentique, et de véridique, je veux dire...
Écoutez, en général...
J'aurais tendance à le croire, quand même. Pourquoi un vieil homme raconterait...
Bien sûr. Mais en général, les vrais exorcistes, les véritables, premièrement, ne font pas de publicité. Deuxièmement, ne se font pas payer. Je vois, par exemple, il y a dans le Midi, un homme qui se dit évêque. Moi, il se trouve que j'ai bien étudié la religion. Alors, évêque orthodoxe. J'ai demandé quel patriarcat.
Il me répond le patriarcat d'Antioche. Le patriarcat d'Antioche, je le respecte infiniment. Il est plus ancien que l'Église catholique, hein, puisque le patriarcat d'Antioche a été fondé avant l'Église de Pierre. Seulement, malheureusement, c'est un patriarcat d'Antioche rénové par lui-même. Et ce monsieur n'est pas prêtre, donc il n'est pas évêque. Il fait payer une fortune ses exorcistes. Enfin, il y a tout un trafic de la misère humaine qui est épouvantable. Et ça, on ne peut pas taxer l'Église quand même de profiter de ça. Hein. Ceux qui en profitent, c'est vraiment les gens en dehors.
J'en garde, mais enfin, je trouve qu'elle refuse un peu trop facilement. Tous ces phénomènes de guérison, de médecine.
Elle est coincée par son uniforme. Oui, elle est coincée par son uniforme. Je dirais, vous savez, on a un précédent célèbre, qui est par exemple le père Teilhard de Chardin, qui avait des vues extraordinaires et extraordinairement en avance sur son époque, qui s'intéressait d'ailleurs à la médiumnité, qui s'intéressait à beaucoup de choses.
Oui.
Il a été obligé de rester tout à fait en arrière de ses véritables recherches, parce qu'il était, encore une fois, coincé par son uniforme de prêtre catholique.
Oui, on l'a condamné aussi pour ses idées sur la christogénèse, enfin, j'ai pas sûr, ça correspondait pas aux idées
de l'époque, oui.
Oui, oui.
Mais oui.
Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prêtres, de vrais prêtres, qui manient facilement le pendule, hein, bon. Il y a ce qui est interdit.
Mais il y a des scientifiques qui manipulent le pendule aussi. Hein.
Oui.
Université à Paris.
Rocard.
Qui était un des pères de la bombache. Hein. C'était quand même pas n'importe qui, oui.
Et un fervent radiesthésiste.
Oui.
J'ai devant moi le livre de François Brune.
Oui.
Les morts nous parlent. Alors François Brune est un peu médiatique. Je l'ai vu, je crois, deux fois à la télévision.
Il est très médiatique.
Il était intervenu dans des émissions sur l'étrange, sur les phénomènes, etc. Alors je ne sais pas si l'Église ne l'a pas encore condamné.
Non, mais il a écrit un très beau livre, qui n'est pas du tout celui-là, qui s'appelle « Pour que l'homme devienne Dieu ».
Oui.
Qui est un admirable livre sur la mystique. Bon, les autres ouvrages, c'est un peu...
Il l'a écrit en collaboration, d'ailleurs, avec quelqu'un.
Avec Chauvin.
C'est ça, avec Rémi Chauvin.
Oui.
Alors, oui. J'ai d'ailleurs, près de moi aussi, le livre de Rémi Chauvin sur le phénomène psy.
Vous avez de très bonnes lectures, cher monsieur.
Non, mais j'essaie de me faire une idée de tout ça, si vous voulez, de tous ces phénomènes.
Mais c'est ce que j'appelle une attitude intelligente. Hein. Parce que les gens qui refusent, qui tranchent un dossier sans rien y connaître, ça, je trouve ça intolérable. Je supporte toutes les positions... Sauf la mauvaise foi et le fait qu'on ne veuille pas essayer de s'informer et qu'on pérore avec autorité.
Alain, merci pour ta question.
Merci, mais enfin, on m'a pas répondu si ça pouvait avoir un caractère...
Excusez-moi, j'ai oublié. Alors, la tendance New Age, parce qu'on est en plein dans les New Age, que j'ai tendance à écrire Nouillage, Nouillage, a tendance à vouloir voir toutes ces histoires extraterrestres comme bénéfiques, ce sont nos grands amis, ils vont sauver la planète, etc. Et à ce propos, il y a eu un film américain qui montre très bien ce côté du phénomène. Je crois que c'est Independence Day. Lorsque les extraterrestres arrivent, la plupart des allumés américains montent sur leur toit de leur immeuble, welcome, etc. On leur fait des gros bisous et puis là-dessus, on voit que les extraterrestres détruisent absolument tout ce qu'ils peuvent. Bon. Je crois qu'il est difficile de manipuler les notions de bon et méchant. Hein, c'est ce que vous êtes en train de parler. D'ailleurs, un chapitre de mon bouquin s'appelle « Sont-ils bons, sont-ils méchants ?» Donc c'est vraiment un...
Ah oui, je l'ai pas lu.
C'est un problème qui m'a intéressé.
Je connais pas votre œuvre, mais bon...
Pour en revenir à ça, je ne crois pas qu'il faille se situer dans cette dichotomie un peu trop simpliste. Si on s'en tient au témoignage et au vécu de certains sujets, c'est tout simplement épouvantable comme mépris de la liberté, de la conscience, de l'autonomie des êtres, vous comprenez ? Ah oui, vous avez des gens qui vivent...
Traités pour quantité négligeable.
Ah, totalement, ils sont vraiment traités comme des cobayes avec une indifférence épouvantable, et je dirais presque c'est là je fais un petit peu la différence entre ceux que j'ai tendance à considérer comme les vrais adultés
et ceux que j'ai tendance à considérer comme des cas un peu moins certains. Et les cas un peu moins certains sont tout à fait dans cette mouvance. Je suis visitée par les êtres de lumière, je channelise les êtres de lumière, tous ces extraterrestres sont charmants, vont nous sauver. Je ne suis pas tout à fait de cet effet, de cette avis, mais enfin, je respecte la position de tout le monde.
Hein. Alain, merci pour ton appel, Daniel, et ton attente depuis
tout à l'heure. Voilà, merci.
Au revoir, Alain. Au revoir. Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
Voilà, madame, j'aurais une petite question à vous soumettre, parce que vous m'avez l'air assez calé sur le sujet. J'aurais aimé savoir si il est possible qu'il y ait un lien direct entre toutes les religions que nous connaissons sur Terre et ces entités biologiques qui nous visitent depuis des millénaires, c'est-à-dire toutes nos religions auraient-elles pu être créées par ces entités biologiques afin peut-être, je dis bien peut-être, de diviser l'humanité pour mieux la contrôler et la soumettre. Car à mon avis, je ne comprends pas pourquoi elles nous examinent, pourquoi elles nous enlèvent et pourquoi font-elles des expériences sur les humains contre notre propre volonté.
Oui, si elles ont vraiment touché 2 millions d'Américains déjà, d'après le Gallup.
3,7 millions.
3,7 millions.
Oui, donc c'est pour ça que je me pose vraiment cette question. Pourquoi font-elles toutes ces expériences si elles ont vraiment le désir de nous aider? Parce que lorsqu'on crée plusieurs philosophies de pensée par rapport à une religion, par rapport à des religions, c'est surtout pour diviser l'humanité.
C'est une théorie assez à la mode là, que vous évoquez, monsieur.
Oui.
Il y a deux choses. D'abord, il y a tout le courant qu'on appelle dit des anciens astronautes. Et là, nous avons été visités depuis l'aube de l'humanité par des civilisations plus développées technologiquement que nous, et qui sont reparties. D'ailleurs, les humites, Jean-Pierre Petit, Supolion, sont partis parce qu'ils étaient épouvantés par ce qu'on sait de notre planète. Il est bien évident, quand on regarde encore une fois l'histoire des religions, on peut vous dire que toutes les grandes histoires de religions sont issues de visites d'êtres dites extraterrestres, invisibles, etc. Les grandes révélations de Moïse sur lesquelles est fondé le judaïsme, d'ailleurs c'est pas Moïse qui a reçu le message, en réalité c'est Aaron, hein, parce que Moïse était bègue, il ne pouvait pas parler, donc